Article d'étude numéro 30. Cet article sera étudié la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Cantique 36. Préservons nos cœurs. Que pouvons-nous apprendre des rois d'Israël? Voici le verset thème de l'article. Vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. Malachie 3, verset 18. En bref, nous verrons sur quoi Jéhovah s'est basé pour juger les rois d'Israël. Cela nous permettra de comprendre ce qu'il recherche chez ses adorateurs aujourd'hui. Paragraphes 1 et 2. Question. Que nous révèle la Bible sur certains rois d'Israël? La Bible nous donne le nom de plus de 40 hommes qui ont régné sur Israël, et elle nous parle avec une grande franchise de ce que certains d'entre eux ont fait. Elle nous révèle, par exemple, que même les bons rois ont commis des péchés. À propos du bon roi David, Jéhovah a dit « Mon serviteur David m'a servi de tout son cœur, en faisant uniquement ce qui est bien à mes yeux. » 1 Roi 14, verset 8. Pourtant, cet homme a commis un adultère avec une femme mariée et s'est arrangé pour que son mari soit tué à la guerre. La note ajoute « Dans cet article, l'expression « les rois d'Israël » désigne tous les hommes qui ont régné sur le peuple de Jéhovah, qu'ils aient régné sur Juda, le royaume des deux tribus, sur Israël, le royaume des 10 tribus, ou sur les 12 tribus. » Fin de la note. De nombreux rois infidèles, quant à eux, ont accompli de bonnes choses. Parlons de Roboam. Aux yeux de Jéhovah, il fit ce qui est mal. Deux Chroniques 12, verset 14. Pourtant, il a obéi à son ordre et a laissé 10 tribus former un autre royaume. Il a également protégé son peuple en fortifiant les villes des territoires de Juda et de Benjamin. Paragraphe 3. Question. Quelle question importante se pose et de quoi parlerons-nous dans cet article? Une question importante se pose donc. Si tous les rois d'Israël ont fait de bonnes et de mauvaises choses, sur quoi Jéhovah s'est-il basé pour considérer un roi comme fidèle et un autre comme infidèle? La réponse à cette question nous permettra de comprendre ce qu'il recherche chez nous. Dans cet article, nous parlerons de trois éléments dont il a manifestement tenu compte lorsqu'il a jugé de la fidélité des rois d'Israël. Leur condition de cœur, leur repentir de leurs fautes et leur attachement au vrai culte. Leur cœur était entier pour Jéhovah. Paragraphe 4. Question. Cite une différence qu'il y avait entre les rois fidèles et les rois infidèles. Les rois qui ont réjoui Jéhovah l'ont servi d'un cœur entier. Pour bien comprendre, la Bible utilise souvent le mot « cœur » pour parler de la personne intérieure tout entière. Il englobe les désirs de l'homme, ses pensées, sa nature, son état d'esprit, ses capacités, ses mobiles et ses objectifs. Fin de la note. Le bon roi Josaphat a recherché Jéhovah de tout son cœur. Deux Chroniques 22, verset 9. Et à propos de Josias, la Bible dit « Parmi les rois qui régnèrent avant lui, il n'y en eut aucun qui, comme lui, soit revenu à Jéhovah de tout son cœur. » Deux Rois 23, verset 25. Mais qu'en est-il de Salomon, qui a fait ce qui est mal à la fin de sa vie? Son cœur ne fut pas entier. 1 Roi 11, verset 4. Et concernant Abiyam, un autre roi infidèle, on lit dans la parole de Dieu, « Son cœur ne fut pas entier pour Jéhovah. » 1 Roi 15, verset 3. Paragraphe 5. Question. Que veut dire servir Jéhovah d'un cœur entier? Que veut dire servir Jéhovah d'un cœur entier? Une personne dont le cœur est entier à son égard ne le sert pas juste par devoir. Elle le sert avant tout parce qu'elle l'aime et est attachée à lui. De plus, une telle personne continue de l'aimer et d'être attachée à lui toute sa vie. Paragraphe 6. Question. Qu'est-ce qui nous permettra de toujours agir d'un cœur entier? Comment imiter les rois fidèles et toujours agir d'un cœur entier? En ne nous exposant pas à de mauvaises influences. Les divertissements malsains, par exemple, peuvent nous amener à avoir un cœur partagé. Il en va de même des mauvaises fréquentations et d'une vision matérialiste de la vie. Si nous nous apercevons que quelque chose commence à affaiblir notre amour pour Jéhovah, prenons rapidement des mesures pour l'éradiquer. Nous lisons au Proverbe 4, verset 23. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et nous lisons au Matthieu 5, versets 29 et 30. Si donc ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux perdre un seul de tes membres que d'être jeté tout entier dans la géhenne. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux perdre un seul de tes membres que de finir tout entier dans la géhenne. Paragraphe 7. Question. Pourquoi est-il important de rejeter les mauvaises influences? Nous devons rejeter tout ce qui pourrait amener notre cœur à être partagé. Si nous n'y prenions pas garde, nous pourrions nous tromper nous-mêmes et penser que, parce que nous participons activement aux activités spirituelles, nous n'avons pas besoin de rejeter les mauvaises influences. Mais imagine, il fait terriblement froid et un vent perçant souffle. Après avoir passé du temps dehors, tu rentres chez toi et tu allumes le chauffage. Or, à quoi cela te servirait-il si tu laissais la porte ouverte? L'air froid remplirait bien vite la maison. L'idée à retenir? Pour avoir une relation chaleureuse avec Jéhovah, il ne nous suffit pas d'absorber de la nourriture spirituelle. Nous devons aussi fermer la porte aux influences malsaines pour que l'air froid de ce monde, autrement dit la mentalité des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu, n'entre pas dans notre cœur et ne l'amène pas à être partagé. Ils se sont repentis de leurs péchés. Paragraphes 8 et 9. Question. Comment David et Ézéchias ont-ils réagi lorsqu'ils ont été réprimandés? Comme nous l'avons déjà dit, le roi David a commis des péchés graves. Mais quand le prophète Nathan est venu lui parler, il s'est humblement repenti. La sincérité de son repentir ressort bien des sentiments qu'il a exprimés dans le psaume 51. Il n'a pas fait semblant d'avoir des regrets, afin de tromper Nathan ou d'éviter d'être puni. Le roi Ézéchias a lui aussi péché contre Jéhovah. La Bible dit de lui « Son cœur devint orgueilleux, ce qui provoqua l'indignation de Dieu contre lui, contre Juda et contre Jérusalem. » De Chroniques 32, verset 25. Pourquoi Ézéchias est-il devenu orgueilleux? Peut-être qu'il s'est mis à éprouver un sentiment de supériorité parce qu'il possédait de grandes richesses, qu'il avait vaincu les Assyriens ou qu'il avait été guéri miraculeusement de sa maladie. Et c'est sans doute l'orgueil qui l'a poussé à montrer ses richesses aux Babyloniens, ce qui lui a valu d'être repris par le prophète Isaïe. Mais, comme David, il s'est humblement repenti. C'est pourquoi Jéhovah l'a considéré jusqu'à la fin comme un roi fidèle qui faisait ce qui est bien. De Rois 18, verset 3. Voici une description de l'illustration de couverture qui est associée aux paragraphes 8 et 9. Au premier plan, on voit le roi David qui, pris de remords, regarde vers le ciel alors que Nathan lui parle. Au deuxième plan, on voit le roi Ézéchias, qui, profondément attristé, se tient la tête tandis qu'Isaïe lui parle. La description de l'illustration que contient l'article ajoute « Après avoir été réprimandés par un prophète, le roi David et le roi Ézéchias se sont humblement repentis. » Paragraphe 10. Question. Comment Amazia a-t-il réagi lorsqu'il a été réprimandé? Contrairement à David et à Ézéchias, ce n'était pas d'un cœur entier que le roi Amazia de Juda faisait ce qui est bien. 2 Chroniques 25, verset 2. D'où venait le problème? Après que Jéhovah l'a aidé à vaincre les Édomites, Amazia a commencé à se prosterner devant leur Dieu. Puis, quand le prophète de Jéhovah lui a fait remarquer sa faute, il n'a rien voulu entendre et l'a renvoyé. La note ajoute « Manifestement, les rois païens avaient l'habitude d'adorer les dieux de la nation qu'ils avaient conquise. » Fin de la note. Paragraphe 11. Question. D'après 2 Corinthiens 7, versets 9 et 11, que devons-nous faire pour que Jéhovah nous pardonne? Que nous enseigne le bon exemple de David et d'Ézéchias et le mauvais exemple d'Amazia? Qu'il nous faut nous repentir et tout faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Si nous recevons un conseil des anciens de notre assemblée, même dans un domaine qui nous semble sans importance, ne nous sentons pas rejetés par eux ou par Jéhovah. Après tout, même les bons rois d'Israël ont eu besoin d'être conseillés et réprimandés. Donc, quand nous sommes repris, premièrement, réagissons avec humilité. Deuxièmement, faisons les changements nécessaires. Et troisièmement, continuons de servir Jéhovah de tout cœur. Si nous nous repentons, Jéhovah nous pardonnera. Nous lisons en 2 Corinthiens 7, versets 9 et 11. Maintenant, je me réjouis, non parce que vous avez été attristés, mais parce que vous l'avez été au point de vous repentir. Car vous avez été attristés d'une tristesse venant de Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun tort à cause de nous. Verset 11. Voyez quel grand empressement a produit en vous cette tristesse venant de Dieu. Oui, quel souci de vous disculper. Oui, quelle indignation. Oui, quelle crainte. Oui, quel vif désir. Oui, quel zèle. Oui, quelle réparation du tort. À tous égards, vous avez montré que vous étiez pur dans cette affaire. Voici une description des illustrations associées au paragraphe 11. Un jeune ancien parle à un frère qui regarde une bouteille et un verre contenant de l'alcool. Plus tard, le frère fait des recherches en se servant de la Bible et de la leçon 43 du livre « Vivez pour toujours ». Plus tard encore, le jeune ancien et le frère prêchent ensemble de porte en porte. La description de ces illustrations que contient l'article ajoute « Un jeune ancien exprime à un frère son inquiétude au sujet de sa consommation d'alcool. Le frère accepte humblement le conseil, fait les changements qui s'imposent et continue de servir Jéhovah fidèlement. » Voici ce que dit la légende de ces illustrations. Quand nous sommes repris, premièrement, réagissons avec humilité. Deuxièmement, faisons les changements nécessaires. Et troisièmement, continuons de servir Jéhovah de tout cœur. Ils étaient attachés au vrai culte. Paragraphe 12. Question. Qu'est-ce qui caractérisait tout particulièrement les rois fidèles? Les rois que Jéhovah a jugés fidèles étaient attachés au vrai culte, et ils encourageaient leurs sujets à l'être eux aussi. Bien sûr, comme nous l'avons vu, ils ont commis des erreurs. Mais leur attachement à Jéhovah était sans partage, et ils se sont même démenés pour faire disparaître l'idolâtrie de leur royaume. La note ajoute « Le roi Asa a commis des péchés graves. Pourtant, la Bible parle de lui en bien. Même si au début il n'a pas accepté la réprimande qui lui était faite, il est possible qu'il se soit plus tard repenti. Au bout du compte, ses qualités ont pesé plus lourd que ses fautes. Notons qu'il n'a adoré que Jéhovah et qu'il s'est appliqué à débarrasser son royaume de l'idolâtrie. Fin de la note. Paragraphe 13. Question. Pourquoi Jéhovah a-t-il considéré Achab comme un roi infidèle? Qu'en était-il des rois que Jéhovah a jugés infidèles? Ils n'ont pas fait que des choses mauvaises. Même le méchant roi Achab a, dans une certaine mesure, fait preuve d'humilité et regretté sa part de responsabilité dans le meurtre de Naboth. Il a aussi construit des villes pour son peuple et gagné des batailles contre ses ennemis. Mais il était connu pour favoriser le faux culte sous l'influence de sa femme. Et de cela, il ne s'est jamais repenti. Paragraphe 14. Question A. Pourquoi Jéhovah a-t-il considéré Roboam comme un roi infidèle? Question B. Qu'est-ce qui a caractérisé les règnes des rois infidèles? Parlons d'un autre roi infidèle, Roboam. Comme nous l'avons déjà dit, il a réalisé plusieurs belles choses pendant son règne. Mais une fois que son pouvoir royal a été solidement établi, il n'a plus obéi à la loi de Jéhovah et s'est mis à adorer de faux dieux. Il n'a alors fait qu'hésiter entre le vrai culte et le faux. Roboam et Achab n'ont pas été les seuls rois à s'être détournés du vrai culte. En fait, la grande majorité des rois infidèles s'est rendu coupable en encourageant le faux culte d'une manière ou d'une autre. De toute évidence, c'était avant tout le degré d'attachement d'un roi au vrai culte qui déterminait si Jéhovah le considérait comme bon ou mauvais. Paragraphe 15. Question. Pourquoi est-il si important pour Jéhovah que ses serviteurs soient attachés au vrai culte? Pourquoi était-il si important pour Jéhovah que les rois soient attachés au vrai culte? Tout d'abord, parce qu'il leur avait confié la responsabilité de guider son peuple pour que celui-ci l'adore de la bonne manière. Mais aussi parce que le faux culte les amènerait forcément à commettre d'autres péchés graves et des injustices. De plus, les rois et leurs sujets étaient voués à Jéhovah. C'est pourquoi la Bible compare leur idolâtrie à un adultère. Quelqu'un qui commet un adultère sur le plan littéral pêche contre son conjoint et lui brise le cœur. De la même façon, une personne vouée à Jéhovah qui se met à pratiquer le faux culte pêche contre lui et le blesse profondément. La note ajoute: notons que selon les deux premiers commandements de la loi mosaïque, il était interdit d'adorer quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que Jéhovah. Fin de la note. Paragraphe 16. Question. Qu'est-ce qui, aux yeux de Jéhovah, distingue clairement les justes des méchants? La leçon? Nous devons être déterminés à rejeter tout ce qui a un rapport avec la fausse religion, c'est une évidence. Mais il nous faut également être attachés au vrai culte et rester actifs au service de Dieu. Le prophète Malachie a clairement expliqué ce qui, aux yeux de Jéhovah, distingue une personne juste d'une personne méchante. Il a écrit : vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. Malachie 3, verset 18. C'est pourquoi ne laissons rien, pas même nos imperfections ni nos fautes, nous décourager de servir Dieu. Cesser de servir Jéhovah est en soi un péché grave. Paragraphe 17. Question. Quel effet notre choix d'un conjoint peut-il avoir sur notre attachement à Jéhovah? Si tu es célibataire et que tu envisages de te marier, vois-tu comment les paroles de Malachie peuvent influencer ton choix d'un conjoint? Une personne peut posséder de belles qualités. Mais si elle ne sert pas le vrai Dieu, est-elle juste à ses yeux? Si tu te maries avec quelqu'un qui ne sert pas Jéhovah, cette personne t'influencera-t-elle positivement sur le plan spirituel? Réfléchis au cas du roi Salomon. Ces femmes païennes avaient peut-être de belles qualités. Mais elles n'adoraient pas Jéhovah, et petit à petit, elles l'ont poussé à pratiquer le faux culte. Paragraphe 18. Question. Qu'est-ce que les parents devraient enseigner à leurs enfants? Parents, vous pouvez vous servir de ce que la Bible nous révèle sur les rois d'Israël pour donner envie à vos enfants de servir Jéhovah avec zèle. Expliquez-leur que, s'ils considéraient un roi comme bon, c'était avant tout parce que ce roi pratiquait et défendait le vrai culte. Par vos paroles et votre exemple, enseignez-leur que les activités spirituelles, comme l'étude de la Bible, l'assistance aux réunions et la participation au ministère, passent avant toute autre activité. Sinon, ils pourraient penser qu'être témoin de Jéhovah, c'est juste être de la même religion que sa famille. Ils risqueraient alors d'accorder une place secondaire au vrai culte, voire de l'abandonner complètement. Paragraphe 19. Question. Quel espoir y a-t-il pour quelqu'un qui a cessé de servir Jéhovah? Si quelqu'un a cessé de servir Jéhovah, n'y a-t-il plus aucun espoir pour lui? Non, puisqu'il peut se repentir et se remettre à pratiquer le vrai culte. Évidemment, il devra peut-être ravaler son orgueil et il lui faudra accepter l'aide des anciens de l'Assemblée. Toutefois, retrouver la faveur de Jéhovah vaut tous les efforts, aussi grands soient-ils. Voici ce que dit l'encadré intitulé « Tu peux revenir à Jéhovah ». Pense au roi Manassé, qui a fait dans une très grande mesure ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Il a versé le sang d'innocents en très grande quantité. Il a pratiqué différentes formes de spiritisme et il a même offert ses fils en sacrifice à de faux dieux. Il a ainsi amené la nation de Juda à faire plus de mal encore que les autres nations. De Rois 21, verset 9. Mais à Babylone, où il a été emmené captif, il s'est repenti. Ayant pratiqué des péchés graves sur une longue période, il a demandé pardon à Dieu plus d'une fois. Profondément affligé, il s'humiliait et priait. Comment Jéhovah a-t-il réagi? Il l'a écouté et a été touché par sa supplication. Il lui a pardonné, l'a ramené à Jérusalem et l'a rétabli dans sa royauté. Deux Chroniques 33, versets 12 et 13. Jéhovah fera-t-il également preuve de miséricorde envers ceux qui ont arrêté de le servir, mais qui manifestent un repentir sincère? Oui. Car Isaïe 55, verset 7 affirme « Que le méchant abandonne ses façons d'agir, et l'homme mauvais ses pensées, qu'il revienne à Jéhovah, qui aura pitié de lui, oui à notre Dieu, car il pardonnera généreusement. » N'hésite donc pas à faire tout ce qu'il faut pour revenir à Jéhovah. Retour à l'article. Paragraphe 20. Question. Si nous imitons les rois fidèles, comment Jéhovah nous considérera-t-il? Qu'avons-nous appris des rois d'Israël? Nous ressemblerons aux rois fidèles si nous veillons à toujours avoir un cœur entier pour Jéhovah. Pour cela, apprenons de nos erreurs, repentons-nous et faisons les changements qui s'imposent. Et souvenons-nous qu'il est important d'être attaché au culte du seul vrai Dieu. Si tu restes proche de Jéhovah, il te considérera comme quelqu'un qui fait ce qui est bien à ses yeux. Comment pouvons-nous veiller à toujours avoir un cœur entier pour Jéhovah? Montrer que nous sommes repentants? Rester attaché au vrai culte. Cantique 45, la méditation de mon cœur. Fin de l'article.